Un G7, c'est comme une réunion de famille. Autour de la table, derrière les sourires, des rancœurs et des désaccords. Surtout lorsque le cousin d'Amérique n'en fait qu'à sa tête, toujours prêt à monter les uns contre les autres.
Vous savez qui c'est ? Boris Johnson, un fantastique premier ministre britannique.
À Biarritz, Emmanuel Macron a surveillé le président américain comme le lait sur le feu.
Il y avait beaucoup de nervosité au début de ce G7, beaucoup d'attentes. Ce à quoi nous avons tenu ensemble tout particulièrement, c'est qu'un message d'unité, un esprit positif des discussions puisse ressortir. Et c'est ce qui est vraiment ressorti de nos échanges.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet incroyable travail que vous avez fait. Ce G7 est une réussite. Il y a une formidable unité.
Le dialogue direct entre les deux hommes porte-t-il ses fruits? Donald Trump a semblé faire preuve d'ouverture sur plusieurs grands dossiers internationaux, à commencer par l'Iran.
Nous n'attendons pas un changement de régime à Téhéran. Ce que nous voulons, c'est pas d'armes nucléaires, pas de missiles balistiques. Je pense vraiment que l'Iran peut devenir un formidable pays, et j'espère voir ça, mais sans armes nucléaires.
Début d'un apaisement sur le dossier iranien, accord en vue avec la France sur la taxation des géants américains de l'Internet, volonté d'engager de nouvelles discussions commerciales avec la Chine. Le temps d'un G7, Emmanuel Macron a-t-il réussi à changer Donald Trump? Ou le naturel risque-t-il de revenir au galop dès son retour à Washington?
Le président américain Donald Trump a-t-il une vision à long terme ou ne pense-t-il qu'à sa réélection? Frédéric Ancel, quelle est la priorité du président américain? Est-ce que ce sont les crises internationales ou l'année électorale aux États-Unis qui a commencé pour lui?
Vision à long terme, j'en doute. En tout cas, il n'a pas démontré. Ça, c'est sûr.
En revanche, il
sait parfaitement qu'en début de campagne électorale, il peut faire et il ne peut pas faire certaines choses. Par exemple, il ne peut pas faire la guerre. Ah mais c'est intéressant, parce que du coup, la question iranienne est arrivée au bon moment. Alors, c'est pas du tout pour retirer un quelconque crédit à Emmanuel Macron qui a réussi manifestement dans les grandes largeurs, on y reviendra à son G7, y compris dire sur la question iranienne. Mais ça veut dire que Trump sait parfaitement que s'il y avait une escalade militaire avec des dégâts et des dommages humains américains dans le Golfe, ce serait catastrophique pour son entrée en campagne.
Il est observé, regardé par sa population en ce moment.
Ah bah oui, bien évidemment, et notamment par son électorat. Et son électorat qui d'ailleurs ne sait pas beaucoup effrité en 2 ans et sur lequel il compte pour être réélu.
Bon, alors, chiffre du jour.
Qui nous ramène à la question iranienne, voilà. Chiffre du jour 30, comme les 30 minutes qu'ont passé ensemble à Biarritz hier, le président Macron et le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif. 30 minutes, cela n'est rien, sauf que Donald Trump a expliqué qu'il avait donné son accord à cette rencontre, et tout à l'heure, cet après-midi, Donald Trump et Emmanuel Macron ont été dans une espèce de dialogue à la Jacques Demy pour dire que oui, bien sûr, Donald Trump pourrait rencontrer, si les conditions sont réunies, le président iranien Rouhani. Alexandra de Hoopscheffer, est-ce que ces deux messieurs, Trump et Macron, sont polis l'un envers l'autre, ou est-ce que sérieusement, on peut considérer aujourd'hui qu'un jour, Donald Trump va aller voir le président iranien et nous sommes sauvés?
Les deux ont un intérêt à faire avancer le dossier dans un sens constructif. Président Macron, lui, souhaite être une puissance médiatrice, comme il a dit, une puissance d'équilibre entre les États-Unis et l'Iran. Et de l'autre côté, effectivement, le président Trump n'a aucune envie d'aller vers une escalade encore plus forte qu'elle n'existe encore aujourd'hui. Et donc, il dit pourquoi pas, comme il dit, c'est un peu sa manière de parier, soit ça marche, soit ça marche pas, pourquoi pas, je serais peut-être un jour content de rencontrer le président Rouhani. Donc il se laisse toute une sorte de panel d'options, toutes plus hypothétiques les unes que les autres, mais ça lui permet aussi de se mettre dans une posture de dirigeant, de rapport de force et de négociation en quelque sorte. Donc les deux, ce qui était intéressant sur ce dossier-là, c'est que Trump et Macron ont chacun montré un petit peu à leur manière des différents arts de négociation pour finalement se retrouver sur ce que le président Macron a décrit comme un chemin qui commencerait peut-être après. Ça pourra peut-être ne jamais avoir lieu si Trump
décide.
Oui, c'est
conditionnel.
Voilà, c'est vraiment très, très conditionnel.
Pierre Aski, quand il rentre à la maison, Donald Trump, quand on n'est plus dans les vapeurs de la côte basque, est-ce que M. Pompeo ou un autre lui dit non mais là-haut, ça ne va pas du tout? Et tout ce qu'on a imaginé là tombe à l'eau.
Alors, on a vu d'ailleurs dans les images, pendant qu'Alexandra parlait, on a vu John Bolton, qui est le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui lui est un faucon absolu, et qui a, dans cette stratégie vis-à-vis de l'Iran, n'a qu'une seule idée en tête, c'est de faire tomber le régime. Alors Trump, tout à l'heure, dit, mais nous ne sommes pas du tout dans un regime change, dans une stratégie d'abattre le régime.
Il a donné sa moustache.
Et donc, il y a évidemment des opinions très diverses. C'est Trump qui décide à la fin, en fonction de ses intérêts électoraux.
Mais est-ce que l'intérêt de Trump aujourd'hui, c'est toujours la même question, c'est d'être avec Macron ou avec M. Bolton? Et
on a vu pendant ces trois jours quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un autre Trump. Tout le monde s'attendait à ce qu'il vienne pour faire des éclats comme il en fait, comme il est coutumier du fait. Au précédent G7, souvenez-vous qu'il a tué le communiqué final d'un tweet.
Qu'est-ce qui l'empêche de redevenir le Trump d'avant dans l'avion du retour?
Il était visiblement venu pour être gentil. Et il a été gentil du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu un couac provenant de Donald Trump pendant ce G7. Donc, visiblement, il pense que vis-à-vis de son électorat, le fait de se montrer en chef d'État responsable sur la scène internationale dans un cadre idyllique comme Biarritz, ça lui va. Demain est un autre jour. Oui. Et dès l'avion, c'est un autre jour. Oui. Et effectivement, je pense que le maître mot de Trump depuis deux ans, c'est quand même l'imprévisibilité.
Frédéric Ancel, sur cette question iranienne, l'Europe est encore crédible, malgré quelques couacs et faillites, notamment le fameux système Instex, qui ne marche pas.
Alors, vous dites encore l'Europe n'est pas crédible, car l'Europe n'existe pas sur le plan géopolitique. Et c'est vrai sur la question iranienne, c'est vrai sur toutes les questions proche-orientales ou presque, et c'est vrai sur la plupart des questions africaines. Et ça, c'est un vrai problème. L'accord du 14 juillet 2015 qui a été trouvé, donc justement sur le nucléaire, avec l'Iran, a été signé par plusieurs puissances, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Maintenant, les Anglais s'en vont, et les Allemands sont extrêmement prudents en fin de période, Merkel a fortiori, sur les questions géostratégiques. Il reste qui? La France. Ça fait peu quand même. Hein. Et si on ajoute à cela que l'Europe orientale, la plupart des États qui nous ont rejoints en 2003-2004 n'entretiennent pas les mêmes représentations géopolitiques que nous à l'Ouest, pour l'essentiel, hein, je fais court, notamment vis-à-vis de la Russie ou de l'islamisme radical, là on se retrouve vraiment seul. C'est la raison pour laquelle ce G7 a vu un Emmanuel Macron aller jusqu'au, je crois pouvoir affirmer, jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire avec un Trump qui effectivement a été d'autant plus sympa qu'il y avait cette fois-ci Johnson. Et alors Boris Johnson, si vous voulez, nouveau Premier ministre britannique, qui en termes de crédibilité se pose là. Et finalement, ça s'est bien passé avec tout de même une petite prudence. C'est-à-dire que ce qui est prévu avec l'Iran, c'est éventuellement une rencontre, c'est-à-dire une désescalade, ce qui serait déjà beaucoup, mais on reste sur les fondamentaux, c'est-à-dire pas de bombe atomique en fait pour l'Iran. Et de ce point de vue-là, tout le monde est d'accord, y compris hors de ce G7. Hein. Les Chinois et les Russes ont toujours été d'accord avec le fait que l'Iran ne devait pas avoir la bombe atomique.
Changement de sujet, la taxe GAFAM, sur les GAFAM.
Là aussi, les lignes ont bougé. Et pourtant, pendant plusieurs semaines, la taxe sur les géants du numérique, ont empoisonné littéralement les échanges entre la France et les États-Unis, en particulier depuis le 11 juillet, quand la France a toute seule et faute de mieux adopté la taxe GAFA, qui prévoit donc d'imposer les grandes entreprises du numérique à hauteur de 3% sur le chiffre d'affaires, et je dis bien sur le chiffre d'affaires, pas sur les bénéfices, et c'est ce qui est révolutionnaire pour lutter contre l'évasion fiscale organisée par ces multinationales. Et ça, c'était resté en travers de la gorge du président américain, qui a aussitôt dénoncé la stupidité d'Emmanuel Macron et puis menacé de taxer le vin français en représailles. Donc, grosse ambiance, mais cette pression, elle est franchement descendue ce week-end grâce à des discussions menées non pas à Biarritz, mais à 20 km de là, à Saint-Plé-sur-Nivelle, dans la maison de famille de Bruno Le Maire. C'est là que le ministre de l'économie a organisé tout le week-end des réunions prétendument secrètes avec l'ambassadrice des États-Unis en France, le conseiller économique de Trump et le représentant au commerce, des tractations en bras de chemise qui ont débouché aujourd'hui sur un compromis, puisque la France s'engage à démanteler sa taxe si un accord est trouvé, un accord plus vaste est trouvé au sein de l'OCDE. Alexandra Dobscheffer, sur ce coup-là, qui a gagné? Macron, Trump ou l'art du compromis?
C'est l'art du compromis, et ce qui est intéressant, tout comme l'Iran ou même la Chine, c'est qu'il y a une convergence sur le diagnostic du problème. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît autour de la table qu'effectivement il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème. Il faut trouver un moyen de taxer ces GAFA, parce que ça représente finalement le thème de ce G7 qu'avait fixé le président Macron.
Ça incarne les inégalités. On n'en a pas beaucoup parlé, donc
non,
c'est ça,
oui,
en réalité. C'est le symbole.
Là, c'était vraiment le symbole. Ça incarnait le thème de ce G7.
La France, là, n'a renoncé à rien, au contraire.
C'est de trouver un compromis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Trump, il n'est pas du tout contre cette idée de taxer les GAFA. Je crois qu'il y avait un...
Il s'aime pas trop Trump et les...
Non, oui, bien sûr. Donc il est pour l'idée. Après, il y a des discussions qui sont en cours au sein de l'OCDE depuis 2007 sur le sujet. C'est vrai que c'est très long. Et donc Macron, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a trumpisé un peu sa manière de négocier. C'est-à-dire qu'il dit, bon, bah écoutez, les choses n'avancent pas assez vite dans l'OCDE. Hop, on fait passer la taxe à la française. Et donc là, ce qu'il fait, c'est pas vraiment revenir en arrière, mais c'est dire à Trump, si les choses avancent plus vite et qu'on trouve vraiment une solution au sein de ce forum multilatéral qui est l'OCDE, eh bien nous, notre taxe nationale n'a plus lieu d'être.
Vous voulez ajouter quelque chose, Pierre?
J'ai le sentiment que la France a reculé élégamment. C'est-à-dire que Trump a, pour une fois, qui lui aime bien les victoires par chaos, en l'occurrence, il a permis à la France de sauver la face et de reculer en montrant qu'on est arrivé à notre fin, puisqu'on voulait un accord international et on l'a, donc on peut retirer notre taxe. Et notre
on la retirera s'il y a un accord international.
Et notre vin ne sera pas taxé, ce qui est quand même très important dans la région où se déroulait.
Alors, une question qu'on se pose, une question récurrente depuis des mois, Trump veut-il détruire l'Union européenne? On regarde quelque chose?
On va regarder, bien Donald Trump. Trump qui était en petit déjeuner avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Et vous allez voir que si Trump a été très gentil à Biarritz, il lui arrive encore de se comporter de manière inélégante verbalement envers nous, Européens. Entendons-le.
Nous sommes actuellement dans de grandes négociations commerciales avec le Royaume-Uni. Il va y avoir un très grand accord commercial, le plus grand que nous n'ayons jamais eu avec le Royaume-Uni. Ils n'auront plus d'obstacles, ils n'auront plus à traîner de boulets. Nous allons avoir de très bonnes discussions commerciales.
Alors voilà, Donald Trump promettant monts et merveilles au Royaume-Uni quand il aura quitté l'Europe.
Boulet.
Le boulet, c'est nous, hein, c'est l'Union européenne. Donc il a beau avoir changé, il a beau avoir été gentil, Frédéric Ancel, Donald Trump est encore cet homme qui veut détruire l'Union européenne.
Pas seulement Donald Trump, les États-Unis. Les Américains n'ont jamais été très favorables à une Union européenne qui dépasserait un simple seuil économique et commercial. D'abord, politiquement, une puissance qui aurait pu être non plus seulement alliée, mais un peu concurrente, ça les aurait gênés. Mais vous avez des présidents, le président Clinton, le président Obama, donc là je parle de démocrates polis, je ne parle pas de Monsieur Trump, au fond ont toujours été un petit peu méfiants. D'ailleurs, c'est l'une des raisons...
Entre la méfiance ou qualifier l'Union européenne de boulet, oui, vous disiez que Boris Johnson,
ça, c'est Trump,
un no deal, est le meilleur premier ministre possible. Pour le Royaume-Uni.
Mais voilà, la forme est différente d'une part. D'autre part, là, on a un Boris Johnson qui, effectivement, là aussi, au moins sur la forme, c'est tant est qu'il y a du fond chez ce personnage politique. Évidemment, on lui permet à Trump, encore une fois, d'être dans l'outrance. Mais pensez bien que depuis des années, voire des décennies, si, par exemple, les États-Unis ont toujours été très partisans de l'intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne, ce n'était pas une question de valeur. Ou alors, c'était une question de valeur boursière. C'est-à-dire que les Américains savaient très bien qu'on risquait de gripper, avec l'adhésion de la Turquie, de gripper ce qui pouvait permettre à l'Europe de dépasser ce qu'elle était jusqu'à présent et de devenir éventuellement un pôle concurrentiel, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Et là, du coup, ça ne se passera pas et Trump est très content.
Alexandra de Hoopscheffer, Donald Trump est le meilleur président pour mettre en place cette politique américaine, détruire l'Europe?
C'est la nouveauté de la politique américaine. Alors, est-ce qu'il veut vraiment détruire...
C'est pas une nouveauté.
Pour moi, c'est vraiment la nouveauté dans la politique étrangère américaine, c'est cette volonté, effectivement, d'affaiblir l'Union européenne qui est perçue au regard de Trump, qui est un businessman, comme un bloc économique qui est quasi égalitaire à celui des États-Unis, comme effectivement un concurrent. Et donc il le voit à travers ce prisme-là. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce qui se passe dans la relation soi-disant spéciale États-Unis-Royaume-Uni et cet échange avec Boris Johnson. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un alignement qui est quasi obligé du Royaume-Uni post-Brexit avec les États-Unis, mais sur quasiment l'ensemble des sujets, le Boris Johnson est beaucoup plus proche des positions européennes qu'américaines. Et d'ailleurs, ça a été le premier dirigeant du G7 à confronter publiquement Trump sur la question de la guerre commerciale avec la Chine. Il est plutôt aligné avec la France, le Royaume-Uni, sur l'Iran, sur toutes ces questions-là. Donc il est un peu pris de tiraillé entre d'un côté, effectivement, la volonté de montrer aux Britanniques après le Brexit, nous aurons un super accord commercial, et encore il faut voir, avec les États-Unis. Et de l'autre côté, diplomatiquement, il est totalement aligné avec les positions européennes. Donc c'est un travail d'équilibriste qui est très compliqué. Oui, quasiment, oui.
Et Pieraski, l'Europe est alignée avec elle-même parce qu'entre la crise politique en Italie, le départ prochain d'Angela Merkel et le Brexit et les problèmes qui vont ensevelir le Royaume-Uni, qu'en est-il de l'Europe dans ce bras de fer avec les